Après avoir porté le vieil homme dans ses bras jusque dans l'appartement, Oshino l'étendit sur le lit tout habillé, lui ôta simplement ses chaussures et le recouvrit d'une mince couette. Nakata remua un peu dans son sommeil en grommelant et se retourna pour adopter sa position habituelle, sur le dos, tête tournée vers le plafond, puis il cessa de bouger, dormant d'un air bienheureux.
« Et allez donc, c'est parti pour 2 ou 3 jours !»
se dit Oshino. Cependant, les choses ne se déroulèrent pas comme le jeune homme l'avait prévu. Le lendemain matin, mercredi, Nakata était mort. Il avait tranquillement cessé de respirer dans son sommeil. Comme d'habitude, son visage était extrêmement paisible et, à première vue, on aurait pu croire qu'il dormait. Mais il ne respirait plus. Oshino le secoua plusieurs fois par l'épaule, l'appela. Rien n'y fit. Nakata était bel et bien mort. Son pouls ne battait plus, et quand le jeune homme tendit un miroir devant sa bouche, aucune vapeur ne vint s'y déposer. Il avait cessé de respirer. Il ne se réveillerait plus en ce monde. Seul dans la pièce avec le mort, Oshino se rendit compte que tous les bruits s'éteignaient les uns après les autres. Les sons qui l'entouraient avaient progressivement perdu leur réalité. Les bruits qui avaient jusque-là eu une signification disparaissaient dans le silence. Ce silence devenait de plus en plus profond, comme le fond d'un océan où la vase s'accumule. Le silence atteignit d'abord les chevilles, puis les hanches, puis la poitrine du jeune homme. Il restait cependant dans la chambre à côté du cadavre, mesurant simplement la montée de ce silence. Assis sur le canapé, il contemplait le profil du défunt, intégrant peu à peu en lui la réalité de cette mort. Il lui fallut beaucoup de temps. L'air autour de lui devenait étrangement pesant. Il ne savait plus si ce qu'il ressentait avait la moindre authenticité. En revanche, il avait spontanément compris un certain nombre de choses. Il lui semblait que la mort avait permis à Nakata de redevenir le Nakata normal qu'il avait souhaité être. Il n'avait pas d'autre choix que de mourir pour redevenir lui-même et se délivrer du bon vieux papy pas très malin.
« Hé, hey, papy !» appela Oshino. « Ça ne sert plus à rien de te le dire. Mais ce n'était pas une mauvaise façon de mourir. Pas vrai ?»
Après tout, il était mort dans son sommeil, paisiblement, et probablement sans penser à rien. Ses traits détendus indiquaient qu'il n'avait pas souffert. Il ne semblait avoir eu ni regret, ni hésitation. Sa mort lui ressemblait bien, estimait Oshino. Il n'avait aucune idée de ce qu'avait été la vie de Nakata, au fond. Avait-elle eu un sens? La vie de la plupart des gens en était complètement dénuée, de toute façon. Mais ce qui comptait vraiment, ce qui avait du poids, songeait le jeune homme, c'était leur mort. Comparé à la façon de mourir, la façon de vivre n'avait peut-être pas une telle importance. Ou plutôt, c'était sans doute la façon de vivre qui déterminait la façon de mourir. Tel était le genre de pensée qui traversait vaguement l'esprit d'Oshino, tandis qu'il contemplait le cadavre de Nakata. Il restait cependant un problème de taille. Quelqu'un devait refermer la pierre de l'entrée. Nakata avait eu beau s'acquitter de la plupart de ses tâches, il avait laissé celle-ci en suspens. La pierre était là, au pied du canapé. « Le moment venu, il faudra que je la soulève et la retourne de nouveau pour fermer l'entrée », songea le jeune homme. Mais Nakata l'avait prévenu qu'il pouvait être très dangereux de manipuler cette pierre. Il y avait sûrement une manière appropriée de la retourner. Si on le faisait de travers, c'est le monde qui risquait de se retrouver sans dessus-dessous.
« Hé, papy, tu es mort. Personne n'y peut plus rien. Mais tout de même, tu me laisses dans l'embarras, là, à t'en aller avant d'avoir achevé ta mission »,
lança Oshino, s'adressant directement au mort qui, naturellement, ne lui répondit pas. Il restait un autre problème à résoudre. Que faire du corps de Nakata? Bien sûr, la façon normale de procéder était d'appeler la police ou l'hôpital qui enverrait des gens s'occuper du cadavre. C'est ce qu'auraient fait 90% des gens en pareilles circonstances. Et c'est ce qu'Oshino lui-même aurait aimé faire. Malheureusement, Nakata était recherché par la police en tant que témoin, voire suspect, dans une affaire de meurtre. Si la police apprenait que lui, Oshino, n'avait pas quitté le vieil homme depuis 10 jours, cela le mettrait lui aussi dans une position pour le moins délicate. Il serait mis en garde à vue. On le cuisinerait pendant des heures. Il préférait s'épargner ce genre de désagrément. Il aurait été trop compliqué d'expliquer tout ce qui s'était passé depuis sa rencontre avec Nakata. En outre, Oshino n'avait jamais eu tellement d'atomes crochus avec les représentants de la loi. Dans la mesure du possible, il préférait les éviter. Sans compter, se dit-il, que je vais avoir du mal à leur expliquer ce que fait ici le cadavre de Nakata. C'est un vieillard habillé comme le colonel Sanders qui nous a prêté son appartement, monsieur l'inspecteur. Il nous a dit qu'il l'avait loué exprès pour nous et que nous pouvions rester autant que nous voulions. Les policiers le croiraient-ils? Impossible. Ah oui, tiens donc. Et le colonel Sanders, qui est-ce? Un militaire américain? Pas du tout. C'est le type de la publicité de la chaîne de fast-food Kentucky Fried Chicken. Vous le connaissez? Non, monsieur l'inspecteur? Oui, c'est ça. Il a des lunettes et une barbichette blanche. Où je l'ai rencontré? Eh bien, il racolait dans une ruelle louche de Takamatsu. Il m'a proposé une fille. Allez donc dire ça aux flics. Vous obtiendrez une réaction du style « Espèce de crétin, tu te fiches de nous, quoi ?» et un bon coup de poing dans la figure de Bibi, hein. La seule différence entre ces gars-là et la mafia, c'est qu'eux sont salariés par le gouvernement. Le jeune homme poussa un profond soupir. Non, ce que je dois faire, c'est m'éloigner d'ici au plus vite. Je passerai un coup de fil anonyme à la police depuis la gare. Je leur donnerai l'adresse de l'appartement et leur dirai qu'ils trouveront un cadavre à l'intérieur. Ensuite, je reprends le train et je rentre à Nagoya. Comme ça, je resterai en dehors de l'affaire. Après tout, il s'agit d'une mort naturelle. Il n'y aura sans doute pas d'enquête très poussée. La famille de Nakata récupérera le corps et j'espère qu'ils lui feront un petit enterrement quand même. Moi, je retourne voir mon patron. Je lui fais des excuses en m'inclinant bien bas. « Pardon, pardon, je vous promets d'être sérieux dans mon travail dorénavant. » Et le tour est joué. La vie reprend son cours normal. Sur ce, Oshino commença à rassembler ses affaires, fourra une tenue de rechange dans son sac. Il enfonça sa casquette des Shunichi Dragons sur sa tête, en faisant bien attention de faire sortir sa queue de cheval à l'arrière, chaussa ses lunettes de soleil vertes. Comme il avait soif, il prit un Diet Pepsi dans le frigo. Pendant qu'il le buvait, adossé à la porte du réfrigérateur, son regard tomba sur la pierre ronde, posée à l'envers au pied du canapé. Il retourna dans la chambre, contempla de nouveau le corps allongé de Nakata. Le vieillard avait toujours l'air de dormir paisiblement. Il semblait sur le point de se relever d'un bond en disant « Nakata n'était pas mort. C'était une erreur. » Mais rien de tel ne se produisit. Il était bien mort.
« Il n'y a pas de miracle, » se dit Oshino. « Il a déjà dû traverser le grand canyon entre la vie et la mort et passer sur l'autre rive. »
Sa canette de Pepsi à la main, le jeune homme secoua la tête.
« Je ne peux pas m'en aller en laissant la pierre telle qu'elle, » se dit-il. « Si je fais ça, Nakata ne pourra pas reposer en paix. » Il était consciencieux et s'assurait toujours que tout était en ordre. Mais sa batterie s'est retrouvée à plat avant qu'il ait eu le temps d'achever son ultime tâche, la plus importante.
Oshino écrasa entre ses doigts la canette de Pepsi, la jeta à la poubelle. Il avait encore soif. Il retourna à la cuisine, prit un autre Pepsi, fit sauter la languette.
Avant de mourir, Nakata m'a dit à quel point il aurait aimé savoir lire pour au moins une fois aller dans une bibliothèque et lire ce qu'il voulait. il est mort sans pouvoir le faire. Naturellement, peut-être que dans l'autre monde, il est redevenu le Nakata normal et sait lire et écrire maintenant.
Mais dans ce monde-ci, il n'avait pas pu. Et d'ailleurs, la dernière chose qu'il avait faite dans sa vie, ça avait été de brûler des lettres. Il avait propulsé tous ces mots qui emplissaient des pages et des pages vers le néant. Quelle ironie du sort!
Mais dans ce cas, songea Oshino, est-ce que je ne dois pas justement exaucer son autre souhait et refermer la pierre de l'entrée? C'est important, non? Finalement, je n'ai pas pu emmener Nakata à l'aquarium ni au cinéma. Alors, je peux au moins faire ça pour lui.
Quand il eut fini son Pepsi, il se pencha devant le canapé et essaya de soulever la pierre. Étonnamment, elle n'était pas lourde. Pas spécialement légère non plus, mais il pouvait la soulever facilement sans trop forcer. Elle avait à peu près le même poids que le soir où il l'avait sortie du sanctuaire en compagnie du colonel Sanders. Le poids d'une de ces grosses pierres qui servent de couvercle au baquet de radis en saumure. Ce qui signifiait qu'elle était redevenue une pierre ordinaire.
« Voyons voir, » se dit Oshino. « Quand elle est la pierre de l'entrée, elle est si lourde qu'il est quasiment impossible de la soulever. Mais quand elle est légère, ce n'est qu'une pierre comme les autres. Il faut qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, comme les coups de tonnerre de l'autre jour, pour qu'elle reprenne un poids particulier et recommence à jouer son rôle de pierre de l'entrée. »
Le jeune homme s'approcha de la fenêtre, souleva les rideaux, regarda le ciel au-dessus du balcon. Il était, comme la veille, couvert de nuages bas et gris. Mais il ne semblait pas qu'il allait pleuvoir de sitôt. Il n'y aurait donc pas de tonnerre non plus.
Oshino tendit l'oreille, huma l'air. Tout était parfaitement normal. « Notre thème central d'aujourd'hui, se dit-il, sera « rien à signaler ».
Puis il s'adressa de nouveau au cadavre.
« Hé, papy, si je comprends bien, il faut que je reste ici avec toi à attendre docilement qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas ce que c'est, ni quand ça va se produire. En plus, ça tombe mal, on est au mois de juin. » « Avec ce temps chaud et humide, si je te laisse comme ça, tu ne vas pas tarder à te décomposer. L'odeur risque d'attirer l'attention. Je sais que ce n'est pas très drôle pour toi de m'entendre dire ça, mais bon, la nature, c'est la nature, hein ? Enfin, plus le temps passe, plus je retarde le moment de signaler ta disparition à la police, et plus je me mets dans de sales draps. Bon, je vais faire tout ce que je peux pour régler notre problème. » Mais je voulais juste que tu saches où on en est. »
Naturellement, Nakata ne répondit pas. Oshino se mit à tourner en rond dans la pièce.
« Mais oui » songea-t-il soudain. « Le colonel Sanders. Il va peut-être prendre contact avec moi. Et lui saura me dire ce que je dois faire avec cette fichue pierre. Il me donnera un conseil utile qui me réchauffera le cœur. »
Cependant, il eut beau contempler le téléphone, aucune sonnerie ne retentit. Le combiné gardait un silence obstiné. Il n'y a rien de plus inutile et introverti qu'un téléphone. Personne ne vint frapper à la porte non plus. Aucun facteur ne vint apporter de lettre. Il ne se passait absolument rien d'extraordinaire. Le temps ne changeait pas et aucune intuition géniale ne venait à Oshino. Le temps passait. Complètement indifférent. Midi arriva, puis l'après-midi s'écoula tranquillement vers le soir. Les aiguilles de l'horloge murale glissaient lentement à la surface du temps comme un girin sur des eaux stagnantes. Sur le lit, Nakata était toujours mort. Oshino se demandait pourquoi il ne se sentait aucun appétit. Vers le soir, il but son troisième Pepsi et se força à grignoter quelques crackers. À 6 heures, il s'installa sur le canapé, s'empara de la télécommande et alluma la télé. Il regarda les informations sur la NHK, mais rien ne retint particulièrement son attention. C'était une journée parfaitement ordinaire, qu'aucun événement n'était venu troubler. Quand les informations furent terminées, Oshino éteignit le poste. La voix du présentateur l'agaçait. Les alentours commençaient à s'assombrir et bientôt il fit complètement nuit. Un profond silence enveloppa la pièce. Oshino s'adressa à nouveau au mort, étendu sur le lit.
Hé, papy, tu ne voudrais pas te relever ? Juste un instant ? C'est que je suis vraiment embêté, moi, maintenant. Et puis, j'aimerais bien entendre ta voix.
Bien entendu, Nakata ne répondit pas. Il était toujours de l'autre côté du Grand Canyon. Il s'obstinait à rester mort et silencieux. Le silence était si épais qu'Oshino avait l'impression, en tendant l'oreille, d'entendre la terre tourner. Il se rendit dans le salon et mit le CD du trio à l'archiduc. Dès le premier mouvement, les larmes lui montèrent aux yeux, puis se mirent à couler abondamment sur ses joues.
« Eh ben ça alors, » se dit le jeune homme. « Je me demande à quand remonte la dernière fois que j'ai pleuré, moi. »
Mais il ne parvint pas à s'en souvenir.